France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu. France Bleu, il est 5h.
Même si la vie nous entraîne, oh, 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 j'étais comme je suis Nolwenn, oh, 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 rien n'a changé, j'ai toujours peur.
Salut à tous dans le rétro, nouvelle balade dans le temps ce week-end. C'est un plaisir de vous retrouver, fidèles au rendez-vous. Chaque semaine, on part pour un voyage avec nos invités, on fait défiler les souvenirs. On y aborde les questions que tout le monde se pose à des moments différents de nos vies. La réussite, la confiance, les obstacles, les échecs, notre place dans la société. Aujourd'hui, il y sera question aussi de l'amour, du couple et du temps qui passe, puisque ce sont les thèmes abordés dans une situation délicate, en ce moment au Théâtre des Nouveautés à Paris. Sur scène, un acteur charismatique, sarcastique et authentique. Bonjour Gérard Darmon.
Bonjour.
Est-ce que vous avez retrouvé votre binette ?
Pour les auditeurs, ça ne veut rien dire.
Eh ben non, mais on va expliquer, mais sans D'accord. trop en dire. Cette binette, en fait, vous la recherchez dans la pièce Une situation délicate, mais là n'est pas du tout le sujet.
Ah non, du tout, non.
Gérard Darmon est dans la merde.
Pourquoi ?
Depuis que j'ai vu la pièce, j'en parle autour de moi et quand mes potes me demandent alors ça parle de quoi, je commence par leur raconter. Mais en fait, je rame. Parce que c'est un vrai bordel dans ma tête et je finis juste par dire « Allez-y, c'est super drôle !» Alors rapidement, pas pendant trois plombes comme je l'ai fait, est-ce que vous pouvez planter le décor ? Je veux pas mouiller.
Non, je sais pas faire ça, mais ce que je peux dire, c'est que ce sont des ressorts classiques de la comédie. C'est-à-dire qu'on parle à quelqu'un que l'on prend pour quelqu'un d'autre. Donc ça génère des quiproquos. Et seul le public a un dossier d'avance et connaît, sait. Donc ils sont en avance sur les acteurs sur scène. Donc ça crée des moments de drôlerie. Ce sont des ressorts comiques qu'avait Fedeau, qu'avait Labiche, qu'avaient tous ces grands auteurs comiques. Vous voyez, c'est... Donc voilà, on est dedans. Alan Ayckbourn est un auteur anglais très joué, car c'est le plus joué après Shakespeare en Angleterre. Je peux pas raconter l'histoire parce que...
Mais non, mais c'est impossible.
C'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
C'est comme quand on raconte un fou rire. Il ouais. y a toujours une déperdition.
Bon, là, il y en a voilà. plusieurs des fou rires dans la pièce.
Oui, c'est vrai.
J'ai remarqué une chose, Gérard Darmon, c'est que même dans vos silences, vous êtes drôle. Le silence, c'est pas rien dire, en fait.
Ah non, le silence, c'est très important. Hugo disait, dormir au théâtre, c'est une opinion. Mais le silence, c'est parfois plus important que les mots que l'on dit. Bien ouais. sûr que oui, il y a tout dans le silence.
Une situation délicate, c'est l'adaptation française qui est signée Gérard Ciblera. Ouais. Un moment, il y a cette réplique, il est jaloux. Clotilde Courault répond, il est amoureux. Vous pensez que quand on est amoureux, on est jaloux, forcément ?
Non, je crois pas ça. Moi, ce qui me concerne, c'est oui. Mais vous savez, la jalousie, c'est encore une fois, c'est bon. Je pense qu'il faut la traiter comme une espèce de maladie. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est jaloux ? C'est qu'on projette sur l'autre ce dont on se sait capable. Donc la crainte, on se sait volage, on se sait fragile. Donc on projette ça chez l'autre. Et donc ça rend fou.
Ça veut dire que si on avait quelqu'un qui est jaloux, eh ben, on devrait pas trop lui faire confiance alors.
C'est terrible parce que il y a différents stades de la jalousie, voilà. Il y a ce qui commence par pourquoi tu l'as regardé comme ça, ou pourquoi il t'a regardé comme ça, ou qu'est-ce que c'est que cette lettre, ou tiens, pourquoi t'as ce parfum, enfin, pourquoi t'es rentré, tu devais rentrer à 8h, il est 10h moins le quart. Enfin, ça peut commencer comme ça, et puis après, ça peut prendre des proportions terribles. Vous savez, la jalousie, moi, je rigole pas avec la jalousie parce que c'est très, ça fait peur, quoi. Ça ouais. fait peur. J'ai connu des jalouses.
Excessives.
Oui. Ça génère d'autres choses. Après, c'est de la mauvaise foi,
C'est de la possession aussi.
C'est affreux la jalousie, oui, absolument.
Gérard Darmon, une situation délicate. Vous jouez le rôle de Philippe. Philippe ne reste pas avec sa femme parce qu'elle s'occupe de tout. Parfois, on reste en couple pour une question de confort. On reste avec l'autre, non pas parce qu'on le désire vraiment, mais parce que, bah, dans le fond, c'est pas si mal. C'est quelque chose que vous arrivez à comprendre, ça ?
Oh, je sais pas si je le comprends vraiment. Je sais que je l'ai un peu subi parce que mes parents, comme beaucoup de parents, étaient d'une génération où ça n'existe pas le divorce. On ne divorce pas. On dit oui à un homme ou à une femme pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Ils avaient au moins le respect de la parole donnée. Bon. Certains, parce qu'il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus volages. En tout cas, les miens, ils sont restés 50 ans ensemble. Et je sais bien que ce n'était pas le grand amour, vous voyez, qui ravage absolument tout. Il y avait, voilà, moi, ma mère m'a fait des confidences à la fin de sa vie en me disant que si j'avais pas été là, elle serait partie plusieurs fois. Mais on ne divorce pas dans ces...
Beaucoup restent justement pour les enfants.
À cette époque,
surtout
oui,
à cette époque.
Absolument. Mmh. Oui.
Une situation délicate, c'est un gros malentendu amoureux, plusieurs malentendus, plusieurs quiproquos. C'est l'amour, c'est le désamour, c'est le couple, le temps qui passe, la rupture. Il y a une question qui se pose aussi, mieux vaut quitter ou être quitté ?
Pour avoir vécu les deux, lorsqu'on est quitté, on souffre affreusement parce qu'on a l'impression de vivre une terrible injustice. Et lorsque l'on quitte, on est très malheureux parce qu'on sait qu'on fait beaucoup, beaucoup de peine à celle que l'on quitte, alors qu'elle ne s'y attendait pas. Donc, il y a une culpabilité dans les deux cas. C'est très, très délicat comme situation.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce?
En jeu de mots, hein. Ben, tout ça. D'abord, l'adaptation est formidable. Cet esprit un peu anglo-saxon, mais qu'on a latinisé, parce que je l'ai sous-polélisé, je vois comment on dit. C'est plus dans la chair et dans le... Très bien écrit, je trouvais ça drôle, comme ça. La perspective de travailler avec Ladislas Chola, qui est un grand metteur en scène. Le choix des partenaires.
Vous êtes tous très forts sur scène. tous les comédiens sont excellents.
Oui,
Clotilde Courault, Max Boublil, Elsa.
Rosen Knop,
ouais.
Avec un nom.
J'ai pas voulu le dire parce que j'allais me planter sinon sur la prononciation.
Oui, absolument. Oui.
Philippe est l'amant de Julie, il pourrait être son père. La différence d'âge dans un couple, est-ce qu'elle pose problème aujourd'hui en 2024?
On me dit ça, je vis avec une femme, j'ai 20 ans de plus qu'elle. Donc,
et alors c'est un problème?
Bah écoutez, ça fait 25 ans que ça dure pour l'instant, donc on va voir si c'est un problème, je peux pas vous répondre encore. Si l'on pense que l'on est plus vieux, c'est pour ça que
C'est quoi être vieux d'abord?
Mais depuis quelques temps, je cite beaucoup ce que me disait Aznavour, hein, que j'ai eu l'honneur de bien connaître et de partager quelques grands moments avec lui. Il me disait toujours, mais on n'est pas vieux, on est âgé. C'est différent, parce qu'il me dit, moi je connais des mômes de 40 ans qui sont vieux. Nous on n'est pas vieux, on a de l'âge. Voilà, donc je préfère dire que j'ai de l'âge.
On est mûr. On est plus sage.
Ça c'est pas sûr.
Une situation délicate, c'est Nicolas qui a étalé la pâte dans le moule à tarte et c'est Marianne qui lui propose de la garnir. Alors si vous prenez ça au premier degré, vous dites ouais, qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Il faut aller voir la pièce pour comprendre. Une situation délicate, c'est délicieux, c'est savoureux et férocement drôle. C'est un vaudeville moderne qui nous prend du début à la fin. On rit et ça déride. La salle est conquise, carton en 2022. C'est pour ça que ça reprend d'ailleurs. C'est avec Clotilde Courault, Max Boublil et Elsa Rosenknop. Et donc Gérard Darmon, notre invité aujourd'hui sur France Bleu.
Se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin, mais pour le plaisir, en passant simplement lui sourire, pour le plaisir.
rétro sur France Bleu. Notre invité aujourd'hui, c'est Gérard Darmon.
Dans le rétro sur France Bleu, la rediff.
Allez, c'est parti, on démarre notre voyage spatio-temporel. Vous naissez à Paris, famille juive pied-noir. Votre père Henri a grandi à Oran. Il débarque en France en 1932. À 35 ans, il revient en Algérie pour épouser Viviane, votre mère. Mariage arrangé. Pendant un temps, vous en avez voulu à votre papa de ne pas avoir rendu votre maman plus heureuse. Selon vous, qu'est-ce qu'il fallait pour la rendre heureuse ?
Oh, il fallait être tout ce qu'il n'était pas, a priori, parce que il venait d'un milieu, vous savez, moi j'ai un père qu'on a appelé toute sa vie trompe-la-mort, donc c'est compliqué. Il a eu un parcours de jeune voyou, c'était pas René Lacan ou Mérine, mais c'était des gens qui, à l'ancienne, c'était des parrains à l'ancienne.
Avec un code d'honneur.
Le code d'honneur, le code de la parole, du respect, de certaines valeurs comme ça. Et ma mère était une jeune fille d'un bled en Algérie qui s'appelait Aïné Larba, et elle voulait être une jeune institutrice, vous voyez, donc elle était fille d'un grand-père qui était cordonnier et rabbin, qui était un peu le sage du village, et tout ce monde-là vivait en parfaite harmonie avec et les Algériens et les musulmans, bien sûr, les autochtones, et la communauté juive et la communauté chrétienne. Je dis ça simplement pour rappeler qu'on est dans une période tellement catastrophique à ce niveau-là, que c'est possible de l'harmonie.
Il y avait de la tendresse.
Dans quoi ?
Entre votre papa, votre maman.
Ah oui, non mais attendez.
Vous disiez tout à l'heure, c'était pas un amour fou.
Non, mais c'est pas
mais
ça.
Mais il y avait de la tendresse.
Oui, c'est pas un amour fou. Pour parler d'une façon un peu plus, aller direct de A à B, l'homme de la vie de ma mère, c'est moi, c'est pas mon père. Bon, alors ça pose quelques problèmes après, hein, quand on grandit, quand on est...
Et puis à l'adolescence, il faut tuer le père, normalement.
Oui, il faut tuer le père, il faut
en
tuer...
En psycho.
Il faut tuer tout le monde. Il faut pas se tuer, surtout, il faut faire gaffe.
Gérard Darmon, vous avez grandi avec un père absent. Le père, même absent, même décevant, on dit que c'est un repère, une structure. Est-ce que ça a été un repère quand même pour vous ?
Bien sûr, c'est un repère. D'abord parce qu'il n'était pas si absent que ça. Les moments de qualité valent autant que les moments de quantité. Donc voilà, il y avait une qualité dans nos rapports. C'était plutôt un taiseux, c'est-à-dire qu'il s'est penché à sa façon, il fallait le comprendre. Quand on l'avait compris, on voyait qu'il s'est penché beaucoup. C'était, je vous dis, des hommes à l'ancienne, donc c'était compliqué. Moi, il m'a élevé au regard. Jamais il a levé la main sur moi. Jamais une gifle.
Jamais de gifle, mais jamais de geste de tendresse non plus.
Si, il y avait quelque chose dans la voix, dans la tessiture, comme ça, dans le ton. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je me souviens très bien de quand je me réfugiais entre ses jambes, quand ma mère me poursuivait avec la pantoufle pour me la jeter. Il y avait cette espèce de jambe un peu solide, comme ça, ce pantalon, une prince de Galles. Je me souviens que ça sentait un peu le bonbon anglais. Ce sont des souvenirs de môme.
C'était quand même votre mère qui vous balançait la pantoufle à la tronche alors.
Mais bien sûr, quand elle m'atteignait, sinon ça atteignait ou le vase ou le tableau ou le et ça c'était formidable. Avant il y avait le fou rire, après il y avait la pantoufle et puis après on me consolait avec un verre de lait et puis un câlin sur ma mère et mon père qui disait un truc qui plaisait pas à ma mère donc ça repartait dans l'engueulade.
C'était un vrai vaudeville en fait.
Ouais, la famille méditerranéenne par excellence. Je connais rien d'autre donc.
Gérard Darmon, je voudrais qu'on revienne sur votre naissance. Vous naissez un 29 février, c'est con ça ?
Je trouve pas.
Ah ouais ?
Non, c'est plutôt bien. J'en aurais beaucoup voulu à ma mère si une année bisexile m'avait fait naître le 28 ou le 1er mars, en sautant le 29. C'est idiot. Il y a un 29, on saute dessus.
Ah mais c'est tous les 4 ans !
C'est tous les 4 ans, j'en ai souffert quand j'étais môme. Ouais. Enfin, j'en ai souffert. Je me posais des petites questions dans ma petite tête, disant pourquoi ça passe du 28 au 1er mars. Je n'existe pas, donc je ne suis pas sur la planète, quoi. Non mais ça compte beaucoup.
Ça compte ça.
Et quand on est ado, après on commence à réaliser que c'est un particularisme. Alors donc on se dit c'est pas mal, le 29 février, pas mal. Mais c'est drôle parce que moi je suis tombé sur un pote que j'ai eu assez longtemps, qui alors lui c'est le contraire, il avait toute une famille et des enfants, c'était né le 14 juillet, le 25 décembre, le 11 novembre, le 1er mai.
C'est chiant ça aussi.
C'est pas mieux, hein. C'est pas mieux du tout. Donc voilà.
Et par contre, j'ai remarqué que de naître justement le 29 février, ça peut poser des problèmes dans l'administration, dans les formulaires. Vous avez déjà eu ça ou pas ? Ce genre de galère-là, non ?
Non, pas du tout. Non,
et les 18 ans ? On peut pas les fêter, c'est pas un multiple de 4.
Ah non, mais pourquoi on fête les 18 ans ?
Bah, c'est la grosse teuf, normalement, les 18 ans, la majorité.
Bon, c'est vrai ? Non, la majorité, à mon époque, c'était 21 ans.
Ah oui,
c'était pas
gênant.
C'était pas gênant, mais c'était pas mieux non plus, parce que c'était 20 ans.
C'était long, 21 ans, non,
pour 21 ans, on avait le droit de voter, on avait le droit de... Voilà, on se sentait plus libre, c'était comme ça. Après, c'est tombé à 18. Et puis, je crois que c'est 16 maintenant, non.
Non,
voter à 16 ans,
pas.
Non.
Non,
pas.
Vote, c'est 18 ans encore.
Ok. Ouais. Ben,
conduite accompagnée à 16 ans.
Voilà, c'est ça.
Et même 15 ans, je crois, depuis.
14, et des petites, les petites voitures électriques à partir de 14 ans.
Sans
même,
permis.
Sûr, oui, sans permis, bien sûr.
Gérard Darmon dans le rétro, on va continuer ce voyage dans un instant sur France Bleu.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze. Shilana Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawu yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze.
Qu'on vous raconte sur France Bleu. Retrouvez Wendy Bouchard chaque mercredi avec la nouvelle newsletter Belles Histoires, livrée directement dans votre boîte mail. Des aventures incroyables, des destins hors du commun et plein d'optimisme partout en France. Abonnez-vous à la newsletter Les Belles Histoires de Wendy Bouchard sur francebleu.fr.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, ce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble, nous deux. Quelle vie on a tous les deux quand on ronflons la fête. Et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre? Ma parole, y'a qu'elle sur terre. Y'a qu'elle pour faire tant de mystère. Mais pour nous, y'a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, on s'aimerait quand même. Tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde.
Merci d'être avec nous. Il est au Théâtre des Nouveautés en ce moment à Paris avec Clotilde Courault. La pièce s'appelle Une situation délicate. Gérard Darmon est notre invité.
Dans le rétro sur France Bleu, la rediff.
On continue notre voyage dans le temps. On part en 1955. Vous avez 7 ans, effectivement, c'est dimanche matin.
Voilà.
Ça sent la sciure dans ce bar de Montrouge. Il y a des gitans qui jouent dans un coin et il y a là l'ancien champion du monde de boxe, Robert Cohen, qui tient l'établissement. Il vous prend dans ses bras, vous pose sur le bar en zinc et vous dit « Mon petit doigt m'a dit que tu connaissais une fable de La Fontaine. » Vous récitez alors « Le loup et l'agneau ».
Oui.
Tout le monde applaudit. Robert vous donne un petit billet de 5 francs. Vous êtes un enfant timide à l'époque. Attirer l'attention dans ces cas-là, c'est pas trop ce qu'on recherche?
Non, mais c'est pas attirer l'attention. C'est bien parce que vous avez lu.
Ouais.
Et je mets ça aussi dans le seul en scène que je me suis écrit et que j'espère un jour pouvoir jouer quand j'aurai le temps. Et bon, je raconte cette anecdote-là. Oui, c'était un petit bistrot qui était à Montrouge. Il y avait des gitans, il y avait lui, Robert Cohen, qui était champion du monde de boxe, quand même, de poids coq.
Vous répétez tout ce que je viens de dire.
Mais
c'est pas grave, hein.
À peu près. C'est au cas où quelqu'un est allé faire pipi, il dit qu'est-ce qu'elle a dit? Ben voilà, il lui a dit écoute. Et puis donc, il me met sur le comptoir, oui, effectivement, mais je sais pas, on sait pas si on est timide ou pas à l'époque, on n'a pas envie de le faire. Et voilà.
Ah, on sait pas si on est timide?
Non, je l'étais,
un peu gêné.
Mais je l'étais de fait, de facto, je l'étais. Donc j'étais sur ce comptoir, je disais le loup et l'agneau. Là, il y en a toujours un pour dire ah, allez lui, ça va être un comédien plus tard, enfin truc, ouais, parce qu'ils avaient l'accent bien sûr. Et puis il me donnait, en réalité, mon premier cachet d'acteur.
C'est ça.
Hein, ouais. C'est un Victor Hugo, c'est un billet de 5 francs, un peu vert.
Ça date.
Très bien. Ça date, oui, à noir.
Je parle de timidité parce que vous étiez timide enfant, adolescent.
Je suis toujours.
Ah ouais, encore ?
Oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'acteurs, je trouve, d'actrices qui sont des timides, de vrais timides. Et quand on dit ça, il y a toujours un petit sourire narquois, genre, oh, mais là, c'est... Si, si, il y a des fonds de timidité. Il y en a même qui ont fait ce métier pour se sortir de cette timidité, probablement. Alors, bien sûr qu'on prend de l'assurance, bien sûr que c'est moins que quand on avait 16 ans, ou qui est un âge vraiment, voilà, où on est vraiment au summum de la timidité, pour plein de raisons. Mais oui, il y a un fond de timidité, oui.
Quand on parle de timidité au moment de l'adolescence, c'est peut-être un peu plus compliqué parfois avec les filles. Vous êtes le gars qui les fait rire, mais elles vont toutes vers l'autre, celui qui les respectait beaucoup moins, qui les aimait moins. Vous étiez le copain du couple. Ça veut dire quoi, être le copain du couple ? C'est en gros le mec qui tient la chandelle, comme on disait à l'époque ?
C'est clair, oui. C'est ça. Assez longtemps, j'ai eu ça. C'est-à-dire, je savais qu'elles avaient un penchant pour moi. C'était le préféré. Mais il y a quelque chose qui ne se faisait pas. Ça venait de mon problème de la timidité, parce que l'autre était un peu plus ours, un peu plus camionneur, un peu plus... Pardon pour les camionneurs, je les aime bien, hein, c'est pas le problème.
Imposant.
Oui, imposant, qui faisait ce qu'il fallait faire. Moi, j'osais absolument pas.
Mais il y en a plein comme ça.
C'était l'orgueil aussi. Hein, j'avais peur aussi de me ramasser probablement un râteau. J'en ai ramassé comme tout le monde, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Téléportation, Gérard Darmon.
Enchanté, Gérard.
Ravi de vous connaître.
Moi aussi.
Nous sommes maintenant au lycée Lavoisier. Vous êtes là en 5e, dans la classe de Monsieur Grasso, prof d'histoire géo. Alors à la récré, vous retrouvez vos potes. Il y a Carillon, c'est comme ça qu'il s'appelle, votre Michel. Ami d'enfance. Mais c'est Carillon, non ?
Oui, absolument,
ah,
Michel
oui.
Carillon.
D'accord, Michel
Carillon. Que j'enviais parce qu'il avait... C'était un petit Claude François.
Blond aux yeux bleus.
Voilà, il avait ça, il était même maigre comme tout. Et alors lui, les filles, ça allait...
S'emballer, quoi.
Moi, j'étais un petit pruneau.
Vous, on vous insulte, sale métec, sale juif. Est-ce que ça a eu une incidence sur l'adolescent et l'adulte ensuite que vous êtes devenu ?
Oui, enfin, c'était pas non plus tous les jours, à la même heure, où j'entrais pas au lycée, on disait « Ouais, sale métec, sale juif !» Bon, il y avait...
Ouais, mais ça vous a marqué ? Si vous en parlez encore aujourd'hui, vous en parlez aussi dans le livre que vous avez écrit.
Oui, quand on vous traite de sale juif, ça vous marque, oui. Ou métèque, pas très bien ce que ça veut dire métèque, je confondais avec pastèque. Enfin bon, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'ai demandé à ma mère ce que ça voulait dire. Rastaquaire, un truc comme ça. Hein. M'a poursuivi jusqu'au conservatoire. Vous voyez, c'était parce que j'étais brun, peut-être un peu fermé, un peu petit pruneau comme ça, un petit pruneau. C'était... Et après,
les petits pruneaux, c'est fripé, hein.
Oui, mais on était fripés dans l'âme, bien sûr, parce que c'est pas agréable. Alors je me bagarrais beaucoup, j'en prenais beaucoup, hein, parce que j'étais pas non plus le costaud des Batignolles, mais je me bagarrais. Alors voilà, j'en donnais, mais j'en prenais aussi beaucoup. Alors j'avais l'impression que mon honneur était sauf, c'était des trucs de môme.
On peut parler aussi de tolérance à cette époque-là et même plus tard. Vous dites, j'ai l'impression que la tolérance a progressé et que l'intolérance aussi. Les deux ont gonflé à armes égales. Aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que vous vous dites ?
Là, en 2024, vous me demandez ça au jour d'aujourd'hui. J'ai l'impression que l'intolérance a pris un sérieux avantage sur beaucoup de choses. Hein. On va pas être sérieux si ?
Non.
Non, hein, parce que sinon...
Enfin, on va pas être sérieux, moi je voudrais parler aussi de votre enfance quand vous grandissez dans un petit appartement modeste, rue des Artistes à Paris, et là je fais tilt parce que rue des Artistes, forcément on se dit que c'est un nom prédestiné. Le destin est écrit selon vous ?
Je crois assez au karma, je suis quelqu'un qui croit, je suis quelqu'un qui prie, tout ça est très personnel et...
On peut forcer le destin.
Faites semblant d'y croire et bientôt vous croirez, disait l'autre. Hein. C'est forcer le destin, je n'en sais rien. Je pense qu'on a un libre arbitre, que tout n'est pas écrit, on fait pas tout à la lettre près. C'est bon, ça veut rien dire. Mais d'une façon générale, le côté karmique comme ça du destin, des rencontres, c'est j'y crois énormément.
Gérard Darmon, vous êtes notre invité sur France Bleu. C'est dans le rétro. À tout de suite.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill. any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. And fields of flowers grow.
C'est un bon week-end à l'écoute de France Bleu. Une idée sortie, tiens, justement, si vous êtes en région parisienne, une situation délicate, c'est une comédie savoureuse à aller voir au Théâtre des Nouveautés à Paris. Sur scène, Gérard Darmon qui était avec nous jusqu'à 14h.
Dans le rétro sur France Bleu, la rediff.
Gérard Darmon, vous prenez des cours d'art dramatique, vous jouez dans les cafés-théâtres pendant une dizaine d'années jusqu'au jour où Margot Capelier, directrice de casting, vous engage pour un rôle dans Les Aventures de Rabbi Jacob.
Messieurs, votre verdict.
La mort.
Parle, Sliman. Mais tu as la vie sauve.
La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe.
Daniel Thompson, scénariste sur le film, expliquait sur France 2, il y a beaucoup de répliques de ce film-là qui ne seraient plus acceptées. Il faut faire attention aujourd'hui à ne pas heurter les sensibilités. Est-ce que vous pensez que désormais, le cinéma, parfois, on doit s'auto-censurer ?
Moi, je n'aime pas ce mot. Je n'aime pas la censure. J'ai plus confiance à, justement, à la tolérance, à l'intelligence et à, voilà, et à la... C'est comme pour l'éducation. Il y a des barrières invisibles, voilà.
Quand on écrit un film, il faut faire gaffe aujourd'hui ?
Je ne sais pas. S'il faut faire gaffe. Si faire gaffe, c'est ne pas dire ce que l'on pense vraiment et ne pas tourner ce qu'on a vraiment dans le ventre, ou ne pas écrire ce qui est là. Donc on fait pas de premier roman, on fait pas d'album, on fait pas de... Si c'est pour être dans le mood et dans le flow actuel, écrire pour écrire ou tourner pour tourner.
Parce que souvent, en tout cas aujourd'hui, on entend de plus en plus ce discours qui va dans le sens que l'humour parfois peut blesser certaines personnes. Et ben, que donc du coup, faut faire gaffe.
Oui, je sais, mais c'est...
Ça vous gonfle, ça.
Oui, tant pis. Franchement, tant qu'il n'y a pas de méchanceté là-dessus...
Ah non, la place où la méchanceté ?
Pardon ?
On la place où, la méchanceté ? C'est à partir de quel moment ça devient méchant ?
Non, mais c'est même pas ça. C'est une espèce de susceptibilité. Si on s'adresse à des décérébrés qui sont vexés dès qu'on dit bonjour, comment ça va, un peu fort, sur un ton qui ne leur plaît pas, et qui en font tout un brin, parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre dans la vie, c'est insupportable. On va pas vivre ce mode de vie-là. Personne ne va me faire vivre comme ça.
Vous, vous en foutez ?
Mais je m'en fous,
Luttez contre ça.
Mais parce que je suis honnête, j'ai une probité, moi, intellectuelle, et j'essaie d'être en accord avec moi-même, et les gens qui m'aiment ou qui me le disent, c'est une des choses qui revient le plus souvent, c'est qu'il y a une espèce de franc-parler, mais on sent qu'il n'y a pas d'artifice derrière tout ça, c'est vraiment quelque chose de ressenti. Ce sont mes idées, je ne demande pas qu'on les partage, si quelqu'un n'est pas d'accord, il me fait la contradiction, mais qui me laisse dire ce que j'ai envie de dire ? Moi, j'écouterai, et je pourrais même, si intellectuellement il arrive à me convaincre, je pourrais même changer un peu de cap. C'est pas si grave que ça.
C'est le but d'un échange et d'un débat.
Mais oui, c'est beau tout ça. Qu'on ne me censure pas parce que, vous vous rendez compte, à longueur d'Instagram, à longueur de Twitter, on lit des espèces de commentaires de lémuriens qui n'ont rien dans la tête et qui se permettent de juger, donner un avis. Surtout en ce moment même, il y en a qui sont avec leur index en train de dire « Mais pour qui se prend ce vieux con de nous dire tout ça ?» Vous voyez, mais je m'en fous de ces commentaires-là. Je les emmerde. Voilà.
Gérard Darmon, entre les années 80 et 2000, c'est une quarantaine de films. Le Grand Pardon, Les Princes, 37-2 le matin, Sans peur et sans reproche, tout ça pour ça. La Cité de la peur, vous tournez pour Claude Zidi, Alexandre Arcadie, Bertrand Blier, Jean-Yann, Claude Lelouch. Téléportation, destination les années 2000. Vous pouvez parler plus fort parce qu'en fait, je sais que vous parlez, mais dites-moi.
Oui, non, je disais, vous avez dit 40, on est très au-dessus.
Plus hein. De 40 films. Oui, mais attention, jusque les années 2000. Hein.
Ah, attention.
Ah bah oui.
Ah bah oui, faites très attention oui. À ce que je dis.
Vous déjeunez, Gérard Darmon, avec votre pote Vincent Lindon. Oui. Vous sortez d'une histoire sentimentale difficile. Vous n'avez plus le goût de travailler à cette époque de tournée. Et Vincent vous dit, tu peux pas continuer comme ça, faut que tu te bouges. Mmh. Va voir Alain Chabat qui va faire Astérix. Un ami, ça peut vous sortir du désespoir ?
Bah, la preuve. La preuve, oui, je l'ai écouté. Il m'a dit, promets-moi que tu vas m'écouter. Je dis, je te promets, je m'en fous, mais je vais le faire. Donc j'ai appelé Chabat. Vous connaissez la suite.
En 2002, vous êtes donc à Mon Beau-Fils, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. L'année suivante, on vous retrouve dans Le Cœur des Hommes de Marc Esposito, un film justement sur l'amitié avec Marc Lavoine, Bernard Campan et Jean-Pierre Darroussin.
Couilles dans le rétro, j'ai vu tes couilles dans le rétro.
Ouais, désolé, hein. Désolé, j'ai pris ce passage, mais l'émission s'appelle Dans le rétro.
Oui, bien sûr.
C'est pour ça.
Bien sûr.
J'ai trouvé que c'était raccord.
Il y avait eu, oui, c'est ça. Il y avait eu Pamela Rose entre-temps aussi. Hein.
Aussi.
Entre Astérix et Le Cœur.
Les enfants donc, qui écoutent dans le rétro, voilà, en fait, vous disiez coude. Hein. Coude dans le rétro.
Bien sûr, prenez-les pour des imbéciles. Voilà.
À l'époque du film, vous aviez peur d'être taxé de misogyne à la sortie du film. Et pourtant, moi, je me suis un peu renseignée, j'ai regardé. Et c'était beaucoup les femmes qui emmenaient leur mari voir le film.
Les femmes qui ont fait le succès de ce film, paradoxalement. Et ben c'est comme ça, vous voyez, on peut pas tout prévoir et tant mieux. Tout à coup, elles ont été séduites par cette espèce d'introspection dans la tête de certains hommes, de quinquas, une tranche d'hommes voilà, un peu particulière. Et c'est elles qui ont amené leur mari à voir le film.
C'était Marc Esposito dans une interview un jour qui disait que les hommes s'étaient de plus en plus féminisés.
Bah, peut-être qu'on a laissé un peu plus s'exprimer ce petit côté féminin qu'on a tous, je sais pas. Il y a eu quand même toute une génération qui a été démasculinisée parce qu'il fallait absolument s'occuper du bébé, mettre les couches. Il y avait un côté, eh bien maintenant, tu vas prendre ma place et tu vas voir ce que c'est que d'être une femme. Voilà, on l'a vécu tout ça. Après, c'est plus ou moins bien digéré.
Là, ça se rééquilibre un petit peu. C'est ce que je disais la dernière fois avec une amie. On discutait, on voit de plus en plus de papas dans les salles d'attente chez le médecin ou qui s'occupent justement de leurs enfants bien quand ils sont en vacances.
Moi, je me suis occupé beaucoup de mes enfants, bien sûr, absolument. Mais ça, on perd en rien de sa masculinité, comme on dit. C'est pas, les tâches étaient un peu plus réparties, mais c'est pas ça l'égalité. C'est autre chose.
Je vous demande ce que c'est ou pas ?
Non, parce que ça va être trop long, puis j'ai la tête à ça. Ouais.
Gérard Darmon, vous êtes notre invité dans le rétro. À tout de suite sur France Bleu.
Aller de ville en ville, ça je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu. Les gens de la nuit sont tous connais pas, ça je les connais bien. Les filles qui vont autour des musiciens, les gens de la nuit qui sont toujours là quand il faut, ils vous appellent avec des rires et des bravos. Ils sont du silence, ils vont la voir connue. J'appelle la chance qui n'est jamais venue.
C'est dans le rétro sur France Bleu, nous sommes avec Gérard Darmon aujourd'hui.
Dans le rétro sur France Bleu, la rediff.
Quand on parle de Gérard Darmon, on pense évidemment à ça.
Youpi, dansons la carioca, c'est bien.
Faisait tous
comme moi. Je l'ai en tête depuis ce matin, c'est insupportable.
C'est
bah oui, dans l'open space.
Ah oui.
Bah voilà. En tout cas, quelle voix, hein. On entend votre voix là. Je dis ça parce que il n'y a pas eu que la carioca.
Sur les écrans de ma jeunesse, les filles ne montraient pas leurs fesses. J'aimais Ben Hur et les westerns et m'envoler loin de la scène. Au fait, j'ai aussi ta lettre.
Ah, ça j'adore. Manu Gachet à la batterie.
Une péniche.
Encore vivante. C'est beau ça.
Vous avez oublié les paroles ou quoi?
Un peu. Je m'attendais pas du tout à ça.
Trois albums, Au milieu de la nuit, Dancing et On s'aime. On s'aime, on reconnaît un peu la patte de Marc Lavoine.
On s'aime. On s'aime. Une patte de Lavoine et de Christophe Cazenave qui lui a fait de beaux tubes comme Toi mon amour, etc. Et voilà, ça c'est mon dernier album, celui que je trouve le plus variette des deux autres. Enfin, en tout cas, si je refais un album, ce qui c'est dans les tuyaux en ce moment, ce sera forcément quelque chose qui aura plus, il sera plus relié au premier album. C'est un album un peu plus jazzy avec des musiciens. Je vous dis qu'il y avait Manu Katché, il y avait.
Ça vous va bien de chanter, hein.
Oui, moi j'ai adoré.
On va s'aimer, Gérard Darmon, on va l'écouter justement dans un instant sur France Bleu.
Fermé, ouais.
Justement, tiens, En amour, qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent? Parce que vous parlez des oppositions aussi dans le titre.
Il y a beaucoup de qui se ressemblent s'assemblent. Moi, j'aime bien les opposés s'attirent. J'aime bien la complémentarité. J'aime bien, parce qu'il y a une forme quand même de narcissisme à vouloir aimer absolument quelqu'un qui vous ressemble. Si vous avez les mêmes idées, les mêmes choses, les mêmes points de vue sur le truc, machin. Au bout d'un moment, on se fait yesh, on se dit, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une espèce de projection de soi sur l'autre. En général, ça ne tient pas plus de 5 ans. Hein. ce genre de truc. Parce qu'une fois qu'on a dit, vous savez, c'est le quotidien qui tue beaucoup.
Ouais, c'est ça.
Oui, d'accord.
Bah, c'est vrai.
Oui, c'est vrai d'une certaine façon. En même temps, quand on aime vraiment, c'est exponentiel, l'amour. C'est-à-dire que plus le temps passe, et plus on aime, et plus le désir s'accroît.
C'est vachement beau ce que vous dites.
Merci.
Non, parce qu'on pourrait penser l'inverse, que ça s'use avec le temps.
Ben, ça s'use, ouais, ça s'use bien. Non, moi je crois au contraire.
Vous avez vraiment l'esprit mal placé en fait, non?
Oui, oui, très. Vous aussi. Hein,
je vois vraiment pas où vous voulez en venir.
Ben, moi non plus.
Bon.
Mais je vais vous expliquer.
D'accord. Gérard Darmon, il manque à ce dictionnaire de votre vie la lettre B pour blague. Faire des blagues, c'est tout un art. Vous en avez une petite ou pas là?
Je suis pas un si bon raconteur de blagues
si.
Que ça. Non, parce qu'il y en a une ou deux qui sont... qui ont été avec chez Ardisson.
Ah ça, bah oui.
Mais sinon, il y a des bons raconteurs de blagues, ils sont très forts pour ça. Mais moi, je les oublie. Avant,
je pensais pas justement.
Ah si. J'aime bien les écouter. Vous avez bien compris que rire, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel.
Vital.
Et de faire rire aussi. Vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai sur cette scène quand j'entends des salves de rire comme ça, et vous les avez entendues.
Ouais.
Les gens rient de bon cœur. C'est ce qui a fait de le petit garçon de 10 ans que j'étais quand il écrivait les petits sketchs en colo. C'est quand il a reçu ses premières salves de rire comme ça, ça a été quelque chose d'extraordinairement jouissif.
Gérard Darmon, on finit ce voyage en musique.
Luna, belle le boule d'Inde.
Ça, c'est Renate Lorane, vous voulez me faire pleurer, c'est ça?
Non.
Un peu quand même.
C'est vrai?
Ouais.
Ça vous émeut, cette chanson, Renate Loranaise?
Mais ça m'émeut parce que ça me renvoie à ma mère. Cette espèce d'amour absolu. Voilà, donc j'ai envie de pleurer.
On va revenir sur un jour en particulier, Gérard Darmon. Vous avez 17 ans. Vous êtes sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Vous le sentez. Pas quelque chose qui vous a changé, mais quelque chose qui vous a enrichi. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai ressenti la même chose au mois de juin de cette année. Je suis allé deux fois en Israël. Après, vous savez, ceux qui savent tout, les experts en mon cul. Mais moi, je dis ce que je ressens. J'ai ressenti une espèce d'énergie, moi qui ai parfois des difficultés parce que je suis très nerveux à respirer. Tout à coup, j'ai eu une espèce de dégagement et de légèreté qui m'a duré toute la journée. J'étais dans un environnement, j'étais au mur de la lamentation. Donc, si vous voulez, c'est assez fort, hein, comme au niveau de l'énergie. Bien sûr que j'ai ressenti ça. Vous parlez de quoi?
Des 17 ans. Non, je parlais de justement à 17 ans, cette sensation que vous avez eue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est joué en vous?
Oui, c'est l'énergie.
Un extrême bien-être,
Oui, probablement, oui. Bien sûr, mais j'étais à l'époque où je travaillais au kibboutz à cette époque-là. Donc, vous voyez, il y avait une énergie, hein. Parce que le kibboutz à l'époque, c'était un but, vivre dans une société très bien organisée. Mais c'était pas ma vie. Vous parlez du karma tout à l'heure, de l'envie. Il y avait quelque chose, on pensait bien qu'ils avaient autre chose à foutre qu'à former des acteurs. Donc, ils étaient en train de cultiver le sol, faire monter les routes, les machins, enfin tout.
C'était pas votre destinée, quoi.
C'était pas ma vie. Mmh. Voilà. Donc, je suis revenu d'Israël, mais mon attachement et mon dévouement et mon admiration à ce pays sont intacts. Mais surtout en ce moment.
Gérard Darmon, on va clore ce voyage avec cette phrase, la vôtre. Je n'oublie pas d'où je viens, c'est le seul moyen d'assumer qui je suis.
Oui.
Merci Gérard Darmon.
Mais c'est moi qui vous remercie, je ne vais pas faire de commentaires.
Vous vouliez dire quelque chose, mais non, c'est fini.
Ben non, c'est vous qui me dites c'est fini, parce que moi je suis prêt à parler avec vous tout l'après-midi. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé l'occasion de balbutier comme ça avec vous.
Une situation délicate, c'est au Théâtre des Nouveautés à Paris. C'est un joyeux bordel, irrésistiblement drôle, avec Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil et Elsa Rosenknop. On s'étonne, on se marre, franchement, allez-y. Cette pièce est délirante. Dans le rétro, merci d'avoir fait ce voyage avec nous. On s'aime, extrait de l'album du même nom, c'est Gérard Darmon. On va l'écouter maintenant. Passez un super bon week-end, prenez soin de vous, salut.
On est revenu de tant de combats
et a tellement tendu son cœur.
Là où d'autres ont baissé les bras,
elle dit qu'après certains regards,
les mots deviennent dérisoires.
On fait les choses parce qu'elles s'imposent sans se demander pourquoi.
Dans la mer,
oh, c'est peut-être,
oui, peut-être.
c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Oh, elle en a essuyé des yeux.
Elle en a baissé les paupières.
Oubliant même que le ciel est bleu.
Attends se pencher dans la poussière.
Elle dit qu'on peut toujours trouver.
Oh, des excuses pour ne pas bouger.
Elle préfère encore se taire.
Et faire ce qu'elle a à faire.
C'est peut-être.
Pousser les cris contre tes murs.
Avec pour écho l'indifférence. Et des rancunes encore plus dures.
Car aujourd'hui, si l'existence
ne se limite qu'à la souris.
Il faut savoir qu'une aile de papillon
peut tout changer pour de bon.
C'est peut-être.
Oui, peut-être.
Goûte dans la mer.
C'est peut-être.
Oui, peut-être.
Goûte dans le désert.
C'est peut-être.
C'est peut-être.
Goûte dans la mer.
C'est peut-être.
Une goutte dans le désert.
Oui, oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
C'est sa raison d'être.
Oh, sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Oui, mais c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Oui, c'est sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Sa raison d'être.
Sous la plume de Pascal Obispo, ce single sorti à l'époque en 1998, c'était au profit du Sidaction. C'était le collectif Ensemble avec sa raison d'être sur France Bleu.
Ici, dès 6h,
sur France Bleu.
Bonjour et bienvenue sur France Bleu en ce week-end qui se poursuit avec une heure de sommeil en plus cette nuit pour le passage à l'heure d'hiver. J'espère que comme nous, vous vous sentez frais comme des gardons, comme le dit l'expression populaire. Merci en tout cas de nous rester fidèles après ce changement d'horaire. Aujourd'hui dimanche, on continue de renforcer votre pouvoir d'achat. On va se régaler avec des produits succulents et pas chers. On parle également de belles histoires qui vous sont arrivées. Le tout avec cette formule que vous aimez, actualité, musique et notre sourire garanti jusqu'à 7h. L'équipe de votre dimanche matin, elle est là aussi en grande forme. En tout cas, elle essaye. Cécile à la rédaction en self, Florent à la technique, Oumaima au standard et Julia Beaufils pour l'info. Bonjour Julia.
Bonjour François-Xavier, bonjour à tous.
L'info du jour, Julia.
On parlera du Made in France à l'occasion de la grande exposition du Fabricant.